Comment va votre niveau de cortisol? Je me pose la question. Oui, c'est la question se pose, mesdames et messieurs. Salut à tous, c'est Alexis Delancer. Très heureux, comme vous le voyez, de vous accueillir dans notre monde qui est aussi le vôtre. Vous entendiez s'esclaffer mes collègues Jeff et Nicolas. Comment ça va?
Ça va. On essaie d'éviter le stress.
Parce que Nicolas, ce matin, a prononcé le mot stress et cortisol à peu près 12 reprises.
C'est mon obsession du moment.
Qu'est-ce que t'as en fait, cette obsession, Nicolas?
J'essaie de régler le niveau de cortisol, d'éviter que ça monte trop haut, là, surtout en ces périodes troubles.
Ah, fais un coach de vie de toi. Quels sont tes trucs?
Je sais pas. Il y a rien qui est trop grave. Concentre-toi sur l'important.
Même les défaites du Canadien de Montréal?
Ben correct.
Ben correct.
Je suis même pas stressé, là.
On sait pas quand ça va jouer le balado. Peut-être que les Canadiens auront gagné.
Oui, là, on enregistre au lendemain de la première défaite contre les Sabres de Buffalo. C'est ça qui arrive. Mais Nicolas reste calme.
Oui. Je vais pas dire publiquement c'est quoi ma prévision, quand même, pour la série.
Non, tu le feras pas cette fois-ci, la dernière fois.
Mais j'avais dit, écoute... Je suis quand même... Écoute, il faut que vous compreniez que j'ai jamais vécu une victoire de Coupe du Canadien de Montréal. Fait que je connais que la défaite depuis ma naissance, tu vois. Donc, je suis toujours un peu pessimiste. Donc, dimanche, comme plusieurs, j'écoutais le match 7 avec des amis. Et dès que le Canadien a gagné, j'ai dit « Buffalo en 5 ». C'est ça ma réaction à chaud.
C'est générationnel. Moi, j'ai vu le Canadien battre les Sabres en 4 matchs en 93 et la suite, on la connaît, c'est une Coupe Stanley.
Ben, ça va pas être ça cette fois-ci.
Non,
pas
en 4, en tout cas. Mais ce que t'as dit, papy ou papa, c'est que ça se peut.
Mais j'espère, tu sais, je souhaite une victoire.
Jeff reste silencieux.
Ah, j'ai rien de constructif à ajouter, mais j'ai écouté le match. Là.
Ben ouais, t'as cédé.
Il y a eu des points.
Hey, on a juste à demander à Gemini et puis à ChatGPT qui va gagner, hein, il est bon là-dedans.
On parlera tantôt des récentes consultations de Jeff avec ChatGPT par rapport à des termes à privilégier en français. Okay. Belle discussion en vue.
Oui, belle discussion en vue. Chers amis, un petit mot pour vous dire qu'on a beaucoup apprécié vos retours sur l'épisode de la semaine dernière. J'aurai quelques commentaires que je vais égrener en fil.
Moi, j'ai un retour.
Ah oui? T'as un retour d'ascenseur?
Genre, j'ai écouté l'épisode. Aucune mention du fait que je suis pas là. Je suis sûr qu'il y a des gens qui pensaient que, genre, j'ai été viré puis vous étiez trop...
Oh boy.
J'ai envie de dire
OK, non, mais Jeff... OK, je vais le dire publiquement. Quand Jeff est pas là, faut faire attention à ce qu'on dit.
Non, mais je veux juste pas que tu me doxes, c'est tout, là.
Je dis ça, je dis rien.
Non, non, j'étais en vacances.
On avait inclus une phrase qui était coupée en montage où je disais « Jeff n'est pas là, il est tout sauf en vacances. »
Je ne vais pas dire j'étais où. Je vais pas dire j'étais où en vacances, mais fait cocasse, j'ai appris que j'étais au même endroit que iShowSpeed, le streamer, genre 3 heures après, puis j'en avais aucune idée. Donc, c'est ça. Je vous dis pas la date, je dis rien là-dessus, mais je l'ai pas rencontré, malheureusement. Ça aurait été très drôle de le voir, mais... Voilà.
La semaine dernière aussi, un grand streamer Neon était à Montréal. Donc, grosse semaine pour les streamers.
Grosse semaine.
Comme toujours. Les amis, breaking news, on me souffle à l'oreille que Gemini dit Canadien en 7.
OK.
Ah ouais. OK. Bon.
Voilà qui est dit. Merci, Jérémy. En tout cas, puis il y a aussi le PDG des Leafs qui est accusé dans un article de Athletic d'avoir utilisé l'IA pour générer des idées d'échange lors de la dernière...
Il a réfuté ses allégations.
En tout cas, voilà pour l'IA. Et là, okay, on a reçu des commentaires comme...
Moi, j'étais pas né. J'ai jamais vu les Leafs gagner
la série.
Donc...
Il y a de moins en moins de gens qui ont vu ça. C'est des plans plus rares.
On aime ça, hein, quand c'est c'est du sucre sur le dos des Leafs. Une personne qui nous a écrit en lien avec notre épisode de la semaine dernière, auquel Jeff n'assistait pas, mais tout va bien. Tu nous as manqué, Jeff. En disant, on parlait de la fusillade gala des correspondants. Je pense qu'il y a un angle mort, nous dit cette personne à votre analyse. C'est surtout Trump, plus que la nature humaine ou la faillite morale qui a fait en sorte qu'il y a eu autant de conspirations. Il a cultivé le flou autour du vrai et du faux en battant des records de manque de transparence. Le complotisme, dit cette personne, qui gagne les démocrates, s'explique peut-être plus par l'ère de post-vérité. Ça tombe bien! On a mis en ligne et on a diffusé une émission spéciale d'une heure sur la désinformation à l'ère Trump et c'est précisément ce qu'on explique, le contexte dans lequel ce genre d'événement survient, ce genre de resurgence de complotisme, que ce soit démocrate ou républicain. C'est à voir, c'est en ligne sur YouTube, on va mettre le lien. C'est en ligne aussi sur tout.tv. Une heure, on est allé aux États-Unis, une bonne partie de l'équipe, pour étudier le phénomène à travers plusieurs angles différents.
Oui, mais je pense pas que c'est tant un angle mort, parce qu'on a déjà mentionné au balado le fait que Trump a entretenu une vision conspirationniste. Son administration, je veux dire, beaucoup de ses... des grands têtes de son administration sont des gens qui étaient des podcasters, qui mettaient de l'avant des conspirations, puis là, qui se retrouvent au pouvoir, puis se voient rongés par ça. Un bon exemple, c'est le directeur du FBI, Cash Patel, qui disait toutes sortes d'absurdités sur les dossiers Epstein, puis maintenant qu'il est, il est à la tête du FBI... qui se rend compte que ben toutes les choses qu'il faisait véhiculer se retrouvent peut-être pas dans les dossiers, puis là ben les gens le croient pas, puis ils disent que lui-même cache des choses. Je veux dire, Trump est embourbé dans les dossiers Epstein depuis quoi, 6 mois maintenant, puis là personne croit son administration quand ils disent que ben finalement dans les dossiers il y a pas grand chose qu'on peut utiliser pour accuser des gens de crimes sexuels, puis là personne n'y fait confiance parce que eux-mêmes quand ils étaient pas au pouvoir ils accusaient les démocrates de le cacher. Donc tu sais, on a déjà parlé de cette mécanique là où quand tu entretiens une vision conspirationniste, des fois tu penses que tu peux l'utiliser pour arriver à tes fins, mais c'est très difficile à contrôler. Mm-hmm. C'est comme une force de la nature que absolument. Ça peut se revirer contre toi assez facilement.
Oui, puis surtout qu'on voit Trump réagir à certaines thèses conspirationnistes qui sont véhiculées par sa base en commençant à insulter les gens, en les traitant de caves essentiellement, et c'est pas mal une traduction fidèle à ce qu'il dit. Puis c'est pas en réagissant comme ça que la base va finalement se rallier à lui. Là, visiblement, il y a vraiment une partie de la magasphère qui se retourne. Mm-hmm. Contre Donald Trump. Puis on verra ce sera quoi le résultat aux urnes également, parce que dans le cadre de cette spéciale-là, j'étais allé en Géorgie. Je suis allé là pour parler de la thèse de l'élection volée de 2020, de comment cet État-là était un peu au centre de tout ça. Mais pendant que j'étais là, il y avait une élection. Donc Marjorie Taylor Greene qui avait démissionné, il y avait une élection pour la remplacer. Puis c'était un district qui, à la dernière élection, a été gagné par plus 37 points par les républicains. Ils ont encore gagné dans cette élection-là, mais c'était juste plus 11. Fait qu'on voit vraiment là, un mouvement assez important dans l'électorat, puis c'était un district très, très républicain. Donc, est-ce que ce phénomène-là pourrait mener à d'importantes pertes aux élections de mi-mandat? Impossible de le savoir pour l'instant, là, mais ce sera à suivre. C'est quand même cette année, c'est en 2026 que ça a lieu.
Et tant qu'à parler de plug, une dernière plug avant de poursuivre avec notre menu du jour. Et ça concerne notre cher et Jeff Yates National à écouter sa participation au balado de Gérald Filion, l'IA payante pour qui, à qui profite le chaos. T'as été voir Gérald en compagnie d'Alain McKenna.
Oui, ben c'est intéressant parce que c'est une discussion qu'on a moins souvent sur l'IA. C'est une discussion plus à saveur économique qui porte beaucoup sur... le modèle d'affaires qui ne semble pas fonctionner du côté de l'IA. Donc, comment est-ce que l'industrie perd des sommes colossales d'argent puis qu'il n'y a aucun plan de redressement en vue? Donc, c'est intéressant d'avoir une discussion d'une demi-heure sur... Je sais que l'économie, souvent, ça peut paraître un peu étourdissant, c'est beaucoup des chiffres, mais je pense que c'est une bonne discussion sur un peu les pieds d'argile de cette industrie-là.
Jean-Philippe Descarry-Mathieu, hier, dans un Reels sur Instagram, distribuait ou relayait plutôt un extrait de discours de Sam Altman qui dit « On ne fait pas de profit, on ne pense pas en faire de si peu, puis un jour, ça va être l'IA qui va nous dire, quand ça va marcher notre affaire, là, c'est l'IA qui va nous dire comment faire du profit. » Là, tout le monde est parti à rire, dit « Vous pouvez rire, mais vous allez voir, ça va se produire. Ben, » Voilà pour son modèle d'affaires. Bonne chance, mesdames et messieurs. Allons-y avec les manchettes du jour. On va vous parler d'ingérence étrangère au Canada. Le mouvement séparatiste albertain encore pris pour cible. Jusqu'où ça peut aller? On explore ça. OpenAI a violé la loi canadienne sur la protection des données personnelles. Est-ce qu'il y a des conséquences? Est-ce qu'il y a des sanctions? Est-ce qu'il y a des pénalités? Non, rien de tout ça. Oubliez ça, il n'y en aura pas. En tout cas, pas à ce stade-ci. Meta réduit encore plus la visibilité des republications sur Instagram. On va profiter de l'occasion pour faire un gros plan, si on veut, sur l'industrie du clipping. C'est vraiment intéressant. Ça vaut le coup qu'on s'y attarde. Les outils de vérification d'âge sur le web, c'est plus facile à dire qu'à faire. Petit survol d'une solution à portée limitée. Ce qui est illimité, c'est le plaisir qu'on a à présenter ce balado-ci. Dans ce cas qui nous concerne cette semaine, c'est le 102e épisode du Balado des Décrypteurs. C'est parti! Alors, le Canada et plus spécifiquement l'Alberta sont ciblés par des acteurs étrangers, russes, et aussi américain. On y reviendra. Le filon qu'ils exploitent dans les deux cas, ben, c'est le séparatisme albertain, le mouvement séparatiste albertain qui, en ce moment, fait pas mal parler de lui. L'objectif, semble-t-il, c'est de semer la division alors qu'il y a un pas de plus qui a été franchi cette semaine vers un éventuel référendum sur la souveraineté ou l'indépendance de cette province. On verra bien, ça c'est en octobre prochain, mais au jour d'aujourd'hui, on veut parler de ce qui se trame, de ce qu'on a appris de nouveau, mais quand même, juste pour dissiper la confusion, peut-être, on rappelle que dans le 100e épisode mis en ligne le 25 avril dernier, on avait évoqué les résultats de notre enquête sur un réseau de chaînes YouTube inauthentiques qui prônait la séparation de l'Alberta. On parle pas de la même chose.
Bien, en fait, le rapport en question mentionne ça aussi, ouais. Parce que ça, c'est un des motifs d'influence étrangère potentielle sur cette question-là, parce que même si on a appris que ces acteurs-là semblaient être motivés par l'argent, donc ils faisaient ça pour l'argent, ça peut quand même avoir une incidence sur le débat public. Mais là, dans ce cas-ci, c'est un rapport de plusieurs organismes, dont Disinfowatch et le Réseau canadien de recherche sur les médias numériques. Puis ce qu'ils disent dans ce rapport-là, c'est que l'Alberta, c'est un terreau fertile pour l'influence étrangère, dans le sens que la situation politique, le fait que c'est une question clivante, ça fait que c'est une cible de choix pour des acteurs étrangers, dont les Russes, par exemple, dont les Américains, on y reviendra. Actuellement, oui, il y a des activités en cours, mais je pense que c'est important de recadrer tout ça avant même qu'on commence ici, là, c'est que même si il y a des activités soupçonnées d'influence étrangère, c'est pas quelque chose qui a une énorme portée en ce moment. C'est pas comme si que l'idée de l'indépendance albertaine est née en raison d'acteurs étrangers. C'est une cause qui existe. C'est un vrai mouvement de fond. Il y a des gens qui soutiennent ça. Mm-hmm. Il y a des acteurs étrangers qui vont vouloir capitaliser là-dessus pour exercer leur influence potentiellement en vue du référendum, qui ont déjà commencé à le faire. Mais que les efforts actuels qui sont mis en place par les Russes, par exemple, ont une très, très petite portée.
Hmm. Oui, c'est ça. C'est très, très, très important. Parce que là, j'ai vu les réactions sur les réseaux sociaux, sur Reddit, sur X, par rapport à ça. D'une part, on dit, regardez, les médias sont en train de dire que la séparation de l'Alberta, c'est pas un mouvement légitime, que c'est une création de la Russie ou de la Chine ou de l'Iran. Puis aussi, on a vu des gens dire, ben garde, c'est clair que tout ça, c'était artificiel, que ça a été alimenté par des forces maléfiques. C'est un vrai mouvement, puis les exemples qu'il mentionne dans ce rapport-là, puis un autre rapport qui avait été publié, qui a été cité dans une chronique de la presse cette semaine, un rapport qui avait été publié en septembre.
Il cité dans ce rapport-là aussi. Oui, le rapport recense plusieurs rapports.
Mais bref, il n'y a rien qu'on a vu là, qui est vraiment incroyable. On parle des vidéos YouTube qui ont comme 300 vues, des vidéos sur TikTok qui ont peut-être 1000 likes. C'est pas incroyable. Là. Comme je veux dire, faut vraiment mettre ça en perspective. Il y a beaucoup plus de publications authentiques par rapport à la séparation de l'Alberta qui vont rejoindre des gens. Là. On parle même pas du même ordre de popularité. Là. C'est quand même intéressant de constater qu'il y a des gouvernement ou des organisations qui essayent d'utiliser cette brèche-là dans la société canadienne pour tenter de tirer leur épingle du jeu, mais faut quand même remettre ça en perspective. Là. C'est pas le gros succès. Là.
Non, c'est ça. Puis je pense que c'est quelque chose qui vient miner un peu la confiance dans les institutions, ouais. Cette idée qu'il y a de l'ingérence étrangère partout, là. La Russie a ses doigts partout, puis dans le fond, il n'y a rien qui est vrai, tout ça est fabriqué par la Russie. C'est pas vraiment ça, en fait. Puis le fait qu'on puisse déceler des opérations comme ça avant qu'elles aient une portée importante, c'est une bonne nouvelle. Puis c'est bon d'avoir ces informations-là publiquement, mais le problème, c'est que c'est souvent cadré d'une manière à faire croire que déjà le débat public est complètement miné par ça.
Quand tu dis cadré, tu veux dire médiatisé de cette façon-là.
Oui, mais aussi perçu de cette façon-là par les gens. Parce que Jeff disait, le monde sur Twitter dit ça, le monde sur Reddit dit ça. Malheureusement, dans la réalité dans laquelle on vit, les gens vont voir un titre qui dit, il y a de l'influence étrangère ou de l'ingérence étrangère dans le mouvement séparatiste albertain. Donc, c'est un faux mouvement. Les gens vont pas nécessairement, quand je dis les gens, je généralise bien sûr, c'est pas les tout gens. Le monde, mais beaucoup de gens sur les réseaux sociaux vont pas nécessairement aller lire les articles, vont juste se fier aux commentaires, puis il y a comme une espèce de fabrication d'opinion qui se fait à travers les commentaires sur les réseaux sociaux.
C'est super intéressant, ça.
C'est très malheureux, ouais, mais ouais. C'est un phénomène très courant. Puis tu sais, on en parlait il y a un certain temps, Jeff, quand t'avais découvert ce réseau de sites web sur Reddit qui polluait Reddit, là, puis tu sais, il y avait des milliers de positive votes sur ces publications-là, des commentaires au sujet de publications.
Mais
quand on cliquait sur l'article, il n'y avait aucune substance à la chose. Fait que c'est ça un peu le problème avec ça, c'est que On gonfle beaucoup l'importance de ça. Cela dit, j'ai parlé à des chercheurs derrière ce rapport-là. Ils n'ont pas pu avoir un portrait complet de cette soi-disant ingérence en Alberta, dans le sens que ils ont rapporté les informations qu'ils ont en ce moment. Ils ont recensé ça notamment avec des logiciels d'intelligence artificielle. Mm-hmm. Et dans les prochaines semaines, vont commencer à faire, vont commencer à scanner de manière plus systématique ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Donc, ça se peut que dans les prochaines semaines, on ait une meilleure idée de l'ampleur de ça. Mais pour l'instant, les nouvelles informations en ce qui concerne la Russie dans ce dossier-là, c'est qu'on parle de 67 mentions des termes Alberta, Albertain et 51e État dans des sites web du réseau de propagande russe Pravda Network entre décembre 2025 et avril 2026. Puis ces sites web-là de Pravda Network, c'est pas des sites web qui sont hyper consultés. C'est pas quelque chose qui se partage tant que ça, mais ça peut notamment infecter les robots conversationnels.
Pravda Canada, j'ai regardé sur SimilarWeb, puis il y avait quelque chose comme 100 vues. Au cours du dernier mois, mais on en avait déjà parlé.
Mais c'est ça, NewsGuard en avait parlé de ça. Puis en Europe, c'est la même chose. Il n'y avait pas une grande portée, un gros reach, comme on le dit.
À infecter les recherches par intelligence artificielle.
Exactement,
justement.
C'est ce que NewsGuard avait conclu. Ouais.
Donc, c'est une hypothèse, mais là, on parle de 67 articles. T'sais, si tu regardes le site de Pravda Canada, là, ils en publient des articles. C'est généré par l'intelligence artificielle souvent. C'est beaucoup, beaucoup d'articles. Donc, c'est assez difficile à savoir c'est quoi l'incidence de ça, même pour les gens qui font des recherches par ChatGPT ou par Google, les previews IA de Google.
Donc, une hypothèse, infecter les résultats des robots conversationnels qui puisent à même ces contenus-là qui sont générés par ces acteurs étrangers. Autre hypothèse aussi, faire en sorte que ce que leur contenu de Pravda et autres soit relayé par des Canadiens.
C'est ça qui est soupçonné aussi parce que j'ai parlé justement au chercheur Brian McQuinn qui était derrière ce rapport-là. Puis ce qu'il disait, c'est que bon, en ce moment, il y a plusieurs comptes sur les réseaux sociaux qui sont liés à la Russie. On a vu pendant des années qu'ils propageaient des narratives liées à l'Ukraine, notamment en visant des Canadiens. Et selon des précédentes recherches qu'il a fait, 83% des interactions avec ces contenus-là sur les réseaux sociaux, c'était par des Canadiens ordinaires, donc pas des comptes liés à la Russie. Donc, ce qu'ils espèrent faire et ce qu'ils espéreront faire avec l'indépendance de l'Alberta, selon ce chercheur-là, c'est de diffuser ces informations-là, d'espérer qu'elles seront reprises par des Canadiens par la suite. Et c'est comme ça que ça va toucher des personnes qui sont très impliquées dans les discussions politiques en ligne. Puis c'est pour ça aussi que là, ce qu'on a en ce moment, c'est un portrait incomplet de ça. On voit que ce n'est pas une portée énorme, mais c'est un sujet qui a beaucoup de potentiel. Oui. Et selon Brian McQuinn, bien, on s'attend à davantage de tentatives d'aller influencer le débat public de la part des acteurs russes, notamment.
D'autant plus qu'il y a deux fronts. Il y a le front russe qu'on vient d'évoquer, il y a le front américain. Parlons-en, qu'est-ce qu'ils ont découvert sur ce front-là?
Oui, le rapport parle aussi d'influence étrangère américaine. Puis, ce qu'il dit, c'est que l'ingérence russe, ça apparaît souvent dans l'ombre. C'est des gens qui font des publications, on ne sait pas trop d'où ça vient, c'est des sites web un peu louches, des comptes un peu louches, des comptes anonymes. Alors que l'influence américaine sur ce débat-là, elle s'exerce au grand jour de manière très ouverte. Puis ça fait en sorte que on peut avoir l'impression que c'est moins grave ou moins dangereux, mais quand on voit des influenceurs, surtout de la magasphère ou de l'ex-magasphère, là, comme Tucker Carlson, qui dit que le Canada devrait peut-être être le 51e État, qui propage des informations anti-gouvernement canadien, anti-unité canadienne, ça peut aussi avoir une incidence sur le débat public et avoir une incidence sur les négociations entre le Canada et les États-Unis.
Oui, c'est complètement ouvert, puis on le voit depuis maintenant 2-3 ans. Je me rappelle, on avait eu ces discussions-là. J'étais comme, il commence à avoir une sorte de rhétorique dans la magasphère là, pour soit envahir le Canada ou annexer le Canada. Puis là, on a vu, avec tout le débat autour de l'indépendance de l'Alberta, tu as des grandes figures comme Steve Bannon, par exemple, l'ancien conseiller principal de Donald Trump. Des gars comme Tim Pool commençaient à dire, ben, garde l'Alberta, vont se séparer, puis on va les accueillir chez nous. Donc, tu sais, est-ce que c'est dirigé par un État? Je sais pas. Ça me surprendrait que Tucker Carlson soit dirigé par Donald Trump, surtout de par les derniers temps, parce qu'il y a eu une petite rupture amoureuse entre les deux. Mais l'effet est quand même de propager ces messages-là dans les réseaux sociaux canadiens, parce que bon, on sait que des gens comme Tim Pool puis Tucker Carlson, Steve Bannon un peu moins, mais ils ont quand même une grande portée au Canada. Tucker Carlson, aux dernières nouvelles, il est encore dans les balados de nouvelles les plus écoutés au Canada.
T'sais. C'est fou, hein?
Donc, Est-ce que c'est de l'ingérence, comment les gens se l'imaginent, d'essayer de jouer, de s'immiscer dans les élections? Je sais pas. C'est leur
influence.
C'est de l'influence.
Oui, ouais, c'est ça. Nicolas et moi, on avait une discussion là-dessus hier. Ingérence, influence, la ligne peut être floue parfois selon les cas de figure. Mais dans ce cas-ci, parlons d'influence.
J'ai trouvé ça intéressant parce qu'ils ont cité dans le rapport justement notre reportage avec CBC sur les YouTubers. Puis c'est ça qu'ils disaient, c'est qu'un peu, même si la visée c'est de faire de l'argent, ben ça revient un peu au même. Tu sais, c'est mettre de l'avant une vision très déformée de la réalité. Puis, tu sais, sans que ça influe directement les gens. Tu sais, c'est pas vrai que tu changes tes opinions politiques parce que tu as vu une vidéo sur TikTok. C'est assez rare. Puis, ben, la séparation d'Alberta, c'est une opinion que bien des gens ont sincèrement. Puis, ils n'ont pas développé cette opinion-là parce qu'ils ont vu du contenu sur les réseaux sociaux. Mais de multiplier ces messages-là, ça peut donner l'image qu'il y a un plus large consensus qui existe véritablement. Puis, sur des plateformes comme X ou. Il y a un incitatif monétaire à créer du contenu qui est clivant, qui est controversé. Puis, un débat comme celui sur la séparation de l'Alberta est nécessairement extrêmement clivant. Ben, ça donne l'impression que peut-être c'est plus. C'est une opinion qui est plus courante qu'elle l'est vraiment. Donc, tu sais, ça peut quand même influencer, pas directement, mais de manière indirecte.
Ça distorsionne nécessairement à divers degrés la perception de la réalité politique vécue en ce moment en Alberta. Puis effectivement, quand on regarde les sondages, les données, il y a quand même une certaine polarisation autour de ce thème-là. Ça sera à suivre, là, comme potentiel référendum en octobre. Ça va être un automne, d'ailleurs, assez intéressant de notre perspective au décrypteur, parce qu'on aura, coup sur coup, peut-être un référendum en Alberta et assurément une élection provinciale au Québec. On gardera un œil très attentif là-dessus.
Puis une élection aux États-Unis?
Eh bien oui, ça, les midterms un peu plus tard, en novembre. Le 6 novembre, si ma mémoire est bonne. En tout cas, ça ne sera pas le 4 novembre, comme disait Jean Chrétien. On poursuit avec un autre thème, cette fois-ci OpenAI, qui, surprise, surprise, n'a pas respecté, a même violé les lois ou la loi sur la protection des renseignements personnels au Canada, loi fédérale. Il l'aurait fait donc, ou il l'a fait en développant ChatGPT. C'est ce que conclut le commissaire à la vie privée du Canada, Philippe Dufresne. Et il n'est pas le seul à statuer en ce sens-là, à en venir à cette conclusion-là. Ses homologues du Québec, l'Alberta, de la Colombie-Britannique aussi abondent dans le même sens. Ils ont travaillé de façon conjointe après 3 ans d'enquête. C'est leur conclusion qu'on va explorer ensemble ici autour de cette table. Est-ce que l'entreprise OpenAI va être réprimandée? Je le disais tantôt en préambule, pas de suspense. Non, non et non. Alors, on va regarder ça de plus près. Parce que...
Absolument rien.
Non. Absolument rien. Mais c'est ça qui est désarçonnant.
Ben, en tout cas, ça reste à voir.
Mais commençons par ce qu'ils ont conclu.
Oui, dans le fond, ben, comme tu l'as dit, là, Alexis, ces organismes-là jugent qu'OpenAI a brimé la vie privée des Canadiens. Bon.
De quelle façon?
Bon, ben. En premier lieu, là, c'est que les données personnelles sensibles de Canadiens se sont trouvées dans les banques d'entraînement d'OpenAI. Ça, pas de grande surprise, là. Mm-hmm. Donc, on parle là, de nom, numéro de téléphone, date de naissance, qui auraient pu se retrouver dans le moissonnage de l'Internet au grand complet d'OpenAI.
Sans consentement, sans
transparence, à savoir, est-ce que moi, je peux savoir si mes informations se retrouvent dans les banques d'entraînement d'OpenAI? J'ai aucune manière de savoir. J'ai aucune manière d'aller demander de retirer ça. J'ai aucune manière de m'assurer que ChatGPT ne va pas donner mon numéro de téléphone à quelqu'un qui lui demande. Donc, assez improbable, là, mais on s'entend qu'il n'y a pas de mécanisme là, pour ça. Il y a une autre détermination dans ce rapport-là qui au premier coup d'œil, je trouvais ça bizarre. Là. Il disait que OpenAI avait brimé la vie privée des Canadiens à cause d'inexactitudes puis d'hallucinations dans les réponses de ChatGPT. J'étais comme, c'est quoi le rapport avec la vie privée? Mais il y a des prédispositions que quand on utilise les données privées des Canadiens, on doit s'assurer qu'elles sont exactes. Et là, le fait que ChatGPT pourrait donner une information inexacte à mon égard, puis qu'il n'y a pas d'assez grande protection de la part d'OpenAI, ça brime la vie privée. Donc, je trouvais ça intéressant quand même, c'est que, bon, on peut utiliser mon nom ou ma date de naissance, mais il faut quand même que ça soit là,
fidèle
à la réalité. On ne peut pas mettre des données inexactes à mon égard. Du fait même que ChatGPT, c'est un modèle de langage, ben il peut avoir des hallucinations. Donc, c'était un peu ça de ce côté-là.
Puis, il y a un exemple très concret de ça cette semaine. Il y a Ashley McIsaac.
Oui.
Pourquoi tu ris?
Nicolas, note en bas de page, je ne savais pas qui est Ashley McIsaac.
Ok, ben désolé pour mon ignorance.
C'est
ben
bon. Non,
je me fais plaster, c'est correct.
Il y a eu un gros moment. Il y a eu un gros moment dans la fin des années 90, je crois.
Non, mais t'as vu comment j'ai dit avec confiance, comme si je savais c'était qui? C'était malade, hein? Mais là, tu ris, mais c'est sérieux, là.
Non, OK, donc, revenons au sérieux de la chose.
Ce violoniste qui a poursuivi Google cette semaine.
Canadien.
Canadien.
Des Maritimes.
Voilà, il a poursuivi Google parce que les AI Overview, donc les sommaires IA, lorsqu'on fait une recherche Google, disaient qu'il était un prédateur sexuel. Donc, il les a poursuivis pour diffamation pour cette raison-là. Puis c'est là aussi qu'on voit deux choses. Mais premièrement, on voit pourquoi c'était dans le rapport du commissaire à la vie privée, mais on voit aussi que c'est pas juste OpenAI qui a violé ces lois-là,
non,
du moins de la
ça.
Manière que c'est décrit. C'est vraiment pas juste eux.
Là, il n'y a aucune mention d'Anthropic ou de Google ou c'est des ça. Autres qui ont fait exactement la même chose.
Vous mettez le doigt sur ce qui m'agace le plus dans tout ça.
Mais bon, on explique dans le rapport que, et ça c'est vrai, là, que ChatGPT est de loin celui qui est le plus utilisé par les Canadiens. Puis si on pense que l'enquête date de quelques années... Disons que la popularité de ChatGPT était pas mal plus importante que Claude, par exemple.
Sauf erreur, cette enquête-là répond à une plainte qui avait été formulée il y a quelques années, et cette plainte se référait à ChatGPT. C'est peut-être pour ça aussi.
C'est probablement pour ça. Ouais. Mais les constats qui en découlent, on s'entend, là, s'appliquent aux autres.
Clairement.
Et là, ben, comme tu l'as dit, Alexis, les conséquences, ben, en gros... ces quatre organismes-là se disent pas mal satisfaits des réponses d'OpenAI. Donc, il y a eu des promesses de la part d'OpenAI, mais aussi des correctifs qui ont été apportés. Moi, ça m'a fait extrêmement rire, là. Un des correctifs qui a été apporté, c'est que OpenAI a abandonné le modèle GPT 3.5 et 4 en juillet 2024 et avril 2025, chose qu'il aurait faite de toute façon, mais parce que les systèmes qui étaient visés par la plainte, ce sont ces modèles-là, puis le fait que OpenAI les a retirés, ben, on juge que ça, c'est un correctif qui a été apporté, du moins en partie. On se remet à la bonne volonté d'OpenAI de mettre en place là, certaines prédispositions, dont un filtrage pour détecter puis masquer les informations personnelles des gens avant de les intégrer dans leur banque d'entraînement. On doit leur faire confiance que ça va être fait.
C'est ça, je pense pas qu'ils ont ouvert la base de données pour que le commissaire à la vie privée puisse regarder.
Absolument
là.
Pas. Puis, tu sais, on dit que on va faire preuve de plus de transparence dans les données qui sont utilisées dans le fameux system card, là, donc un genre d'information sur le système quand on met en ligne une nouvelle version de ChatGPT. On verra ce que ça va donner dans les modèles à venir. On dit aussi que OpenAI devait publier mercredi, en même temps que le rapport, un billet de blog qui expliquait son approche pour protéger la vie privée des Canadiens. J'ai pas vu ça hier,
au
mercredi. J'ai pas vu rien sur leur blog. Donc ça, c'est un des engagements d'OpenAI qui a visiblement n'a pas été respecté.
Je te confirme,
c'est toujours pas là
en ce moment.
Une autre, j'ai trouvé... excuse-moi, j'ai trouvé beaucoup de choses comiques dans ce rapport-là, je suis désolé, mais une autre, c'est que on dit que OpenAI, ils ont intégré dans ChatGPT une nouvelle fonction que ChatGPT peut rechercher sur le web puis dire à l'utilisateur sur quelle source d'information il se base, comme ça l'utilisateur peut valider l'information. OK. Oui, j'en conviens, mais comme on s'entend que un des gros problèmes avec ces robots conversationnels-là, c'est que les gens, justement, ne cliquent pas sur les liens. Ils font juste s'en remettre...
Confiance aveugle.
Ils font confiance aveugle à ChatGPT. Donc, du côté là, du commissaire à la vie privée, ça semble être pas 100% réglé, c'est conditionnel là, à certains engagements du côté d'OpenAI, mais... Ça semble, on semble faire confiance à OpenAI qui vont régler ces brèches-là dans la vie privée des Canadiens.
Oui, on verra bien. Donc, ils vont, je présume, rester attentifs. Je rappelle qu'en décembre 2024, dans une cause connexe, l'homologue italien, donc du commissaire à la vie privée, avait infligé une amende de 15 millions d'euros à OpenAI. Pas grand-chose pour OpenAI. Et j'en profite pour... incruster un autre élément de discussion, parce que moi, cette semaine, je m'y suis intéressé quand même. Cette volte-face quand même incroyable de l'administration Trump, qui, semble-t-il, serait en voie d'imposer un système de pré-autorisation qui concerne le développement éventuel de nouveaux modèles d'IA générative. Casey Newton appelle ça le moment doomer de l'administration Trump, parce que soudainement, c'est un peu un réflexe, dirait-on, de doomer de l'IA de faire comme ça. Pourtant, en février 2025, J.D. Vance parlait du fait que, selon lui, une réglementation excessive pourrait tuer un secteur en pleine transformation au moment où il prend son essor. Il y avait le tsar de l'IA et des cryptos qui avait dit, qui vilipendait ce qu'il appelait...
David Sachs.
Ouais, c'est ça, qui vilipendait ce qu'il appelait le Doomer Industrial Complex. Ben voilà que c'est un inversement total de la logique, surtout de la part d'une administration qui avait milité en faveur ou encouragé le mouvement de lobbying contre les États qui allaient réglementer davantage l'IA. Mais comble de l'ironie, ce qu'il s'apprêterait à faire, c'était une réplique d'une idée de l'ère Biden, qu'ils avaient ridiculisé jadis, ce qui aurait fait changer le vent de direction, si on veut, vous l'aurez deviné, c'est Mythos, voilà, d'Anthropic. Mais j'ai bien hâte de voir la suite des choses, les modalités aussi de cette préautorisation-là. Certains disent que ça crée un faux sentiment de sécurité. T'as beau tester ça en laboratoire, quand c'est dans la vie réelle, puis que c'est utilisé par des gens dans la vie réelle, c'est une autre histoire, d'une part. D'autre part, c'est aussi les craintes qui ont à voir avec les contenus. Est-ce que c'est une façon de censurer aussi? Est-ce que de voir une tangente woke dans un modèle d'IA, entre guillemets, pourrait pousser l'administration Trump au préalable, en amont, à encadrer davantage un modèle d'IA? Ce qui causerait quand même des problèmes d'ordre constitutionnel aux États-Unis.
Oui, la manière qu'ils encadrent ça ou qu'ils voient cette technologie-là est très dure à suivre. Surtout après tout l'épisode avec Anthropic, justement, puis la défense.
Ben oui.
Tu sais, c'est... Ils veulent pas mettre les bâtons dans les roues des entreprises américaines, mais finalement Anthropic, ils voulaient les démolir parce qu'ils voulaient pas les laisser faire ce qu'ils voulaient avec leur modèle. Donc, ils disent beaucoup une chose et sont contraires.
Comme dans notre dossier, n'est-ce pas, Nicolas?
Ouais.
La guerre en Iran, est-ce qu'elle est terminée ou pas, là, finalement?
On va aller voir sur Polymarket.
Ah oui, exactement. On ira voir sur Polymarket. Mais alors, on va plutôt voir du côté de l'industrie du clipping à l'instant même. On vous en parlait en préambule. Il y a quoi? Plus d'un milliard, dit-on, de vidéos courtes qui sont publiées chaque jour sur les différentes plateformes. Pas facile de se faire remarquer dans un torrent, dans un déluge comme ça, à moins de disposer d'une petite armée de personnes qui s'en occupent pour vous. Hein. C'est là où entre en scène l'industrie du clipping ou de la republication de contenus originaux, de reprise du contenu selon d'autres traductions. Ça consiste à découper les moments forts d'un direct, d'un live, pour ensuite en produire un autre extrait pour créer une viralité. C'est là-dessus que, contre ça, que Meta veut sévir, en particulier sur Instagram. On resserre les taux, finalement, mais il y a des nuances à porter.
C'est ça qu'ils ont l'air de vouloir faire, mais c'est pas tout à fait clair, en fait, parce que la semaine dernière, il y a Adam Mosseri, qui est comme le grand patron d'Instagram, qui, comme il fait bien souvent, publie une vidéo sur son compte pour expliquer des changements qui allaient être mis en place sur la plateforme dans les prochains jours. Donc, ça devrait déjà être mis en place au moment où on se parle. Puis, il disait que si un compte Instagram republie du contenu qui a été créé par d'autres personnes, il ne sera plus recommandé dans l'algorithme de la plateforme. Si le contenu est remixé, c'est correct. Si on publie en collaboration avec le créateur original, c'est correct, selon Adam Mosseri. Mais si on republie du contenu de quelqu'un d'autre, ça ne fonctionne pas. Donc,
c'était déjà le cas dans les Reels.
Ben, c'est une nuance qui est passée sous le radar pour plusieurs personnes, dont moi-même. Je n'avais pas compris cet aspect-là de la chose parce qu'apparemment, ça s'applique déjà aux Reels. Donc, dans ce cas-ci, ces clips-là, là, ce clipping dont on parle, ça passe déjà par les Reels. Il y a déjà énormément de contenu qui est republié là-dessus. Donc, visiblement, déjà, la mesure semble pas fonctionner super bien parce qu'on voit une tonne de contenu recyclé dans les Reels d'Instagram. Mais tout de même, les gens ont pris cette nouvelle-là pour dire « c'est la fin de l'industrie du clipping ».
Oui, c'est ça. On a vu, j'ai vu plein de gens sur LinkedIn puis sur Instagram dire si vous êtes des créateurs qui font par exemple des agrégations de clips ou des comptes d'agrégation de nouvelles sur Reddit ou sur X, reprendre des screenshots de ces autres plateformes-là puis les mettre sur la plateforme, c'est peut-être la fin de cette façon-là de créer du contenu. Tu vois, même dans la publication d'Adam Mosseri, il y avait des gens qui n'étaient pas contents, là, qui disaient « Vous êtes en train de tuer notre façon de faire du contenu. » Mais c'est
et
ça.
Et gagner de l'argent.
Ça a porté un peu, puis j'ai même vu dans l'infolette de Garbage Day, il disait « Bon, ben c'est le ressac d'Instagram contre cette industrie-là du clipping qui prend de plus en plus d'espace. » Parce que la part des plateformes se lance dans ou se concentre sur le short-form vidéo, là, les courtes vidéos. Puis, ben le clipping, c'est créé sur mesure pour exploiter des algorithmes qui mettent de l'avant des vidéos courtes.
Mais profitons-en justement pour parler un peu plus en détail organiquement. Là, comment ça marche, ben, l'industrie
c'est pas organique.
Du clipping? Non, je comprends ce que tu veux dire, mais quand on dit qu'il y a une industrie, c'est parce qu'il y a des offres de services en ce sens-là.
Oui, tu as des entreprises comme Clipping qui offrent...
L'entreprise s'appelle Clipping.
L'entreprise s'appelle Clipping, oui, excuse, ça peut porter à confusion. Mais c'est carrément ça, là. Tu peux t'inscrire pour être un clipper. Dans le fond, c'est de mettre des clips pour des clients sur toutes les plateformes. Tu peux faire 1$ par 1000 vues. Donc, tu sais, c'est pas beaucoup d'argent, mais si tu génères des millions de vues, ben ça peut-être rapporter. Puis ils travaillent pour des clients, comme je dis, souvent des streamers, des gens comme Clavicular, dont on a déjà parlé. On a parlé il y a quelques semaines à l'émission. C'est souvent des streamers là, qui produisent là, des heures et des heures de contenu ou des balados. Des balados plus longs. Ils invitent les gens là, à prendre des petits clips, essayer de les rendre viraux sur les réseaux sociaux. Puis là, les gens se font payer pour les vues qu'ils génèrent avec ça. L'entreprise Clipping là, se targue là, de générer là, énormément de vues. Là. Leur statistique là, pour le mois de mars à avril, c'était 10 milliards de vues qui ont été générées par leur clipper sur 309 000 vidéos, par 1700 clippers qui ont travaillé. C'est quand même... beaucoup, même juste pour Clavicular, là, c'était 2,2 milliards de vues qui ont été générées par les clippers qui travaillent pour Clipping.
Puis, il y a 1600 clippers qui font des clips pour Clavicular selon les données de Clipping. Il y a beaucoup de fois le mot clip. Mais fait qu'on parle vraiment d'armées de gens qui sont mobilisés pour mettre en ligne ce contenu-là. Puis c'est comme ça que beaucoup de ce contenu-là est découvert aujourd'hui. Parce que si on regarde Clavicular, sur ses autres comptes de réseaux sociaux, c'est Bloomberg qui a fait un article à ce sujet-là dans les derniers jours. Il y a 1,7 million d'abonnés à travers Instagram, YouTube, TikTok et X. C'est vraiment pas tant que ça, honnêtement. T'as des influenceuses québécoises qui ont à peu près ce nombre d'abonnés-là juste sur leur compte Instagram. Alors que Clavicular, tout le monde en parle comme l'influenceur masculiniste ou looksmaxer de l'heure. Son nombre d'abonnés puis le nombre de personnes qui regardent diffusion en direct est pas si énorme que ça, mais il se crée une notoriété à travers ces armées de clippers-là. Puis tu sais, là, on parle d'une industrie, c'est une chose. C'est sûr que la clip comme moyen de diffusion est très populaire, même pour des plus petits créateurs. Tu sais, comme au Québec, personnellement, est-ce que j'écoute les diffusions de Louis Lefou sur Twitch? Non. Est-ce que je sais c'est qui parce que je vois des clips de lui sur TikTok?
Oui.
Oui. Dans son cas, par contre, je pense pas qu'il emploie une armée de clippers. Tu sais, c'est celui qui alimente son propre compte. Mais c'est une manière pour les gens d'aller chercher de la notoriété, de faire voir leur contenu et d'attirer par la suite des gens vers leur diffusion en direct, vers leur stream. C'est juste que là, aux États-Unis, c'est vraiment une industrie massive. Là.
On s'est même fait clipper nous-mêmes par Brainrot Québec.
Oui.
C'est shout vrai. Out Brainrot Québec. Mais puis c'est ça l'affaire, c'est que peut-être, même si la nouvelle politique d'Instagram, c'est pas un ressac direct envers le clipping, je pense que ça s'en vient parce que le monde réalise que c'est saturé. Puis là, les grandes compagnies commence à s'y mettre. Donc, j'ai vu la journaliste Kaylee Notopoulos, elle a partagé sur X une offre de clipping pour la série Euphoria de HBO.
Ouais.
Donc, vraisemblablement, HBO propose, là, il engage des clippers, il offre c'est ça, un dollar par 1000 views pour créer des clips de Euphoria avec de la musique lo-fi. Puis ils ont un budget de 3 500 $ pour 3,5 millions de vues. On voit que ça rapporte.
Puis je présume que Netflix aussi ferait la même chose et d'autres aussi.
Ben, on sait pas, mais fort probablement. Ouais, donc, c'est quelque chose qui a comme été un peu créé par des créateurs natifs des réseaux sociaux. Andrew Tate, c'était
c'est ça que j'allais dire. Andrew Tate, Luke Belmar et d'autres ont peut-être été les pères spirituels de cette industrie.
Andrew Tate, c'était pas nécessairement pour faire sa popularité, mais pour plus pour contourner d'être banni sur des grandes plateformes. Mais tu sais, c'est ça. C'est une technique qui s'est développée pour faire mousser de façon complètement inorganique la popularité. Parce que c'est ça l'affaire qu'il faut comprendre, c'est que tu te promènes sur les réseaux sociaux, puis là, tu vois tout d'un coup des dizaines de vidéos de Clavicular partout, de plein de comptes différents, mais les clippers, c'est ça qu'ils font, c'est qu'ils vont avoir plusieurs comptes. Tu sais, ils disent pas, hey, ceci est une clip qui est payée pour Clavicular. Puis c'est ça qui est intéressant là-dedans, c'est que les clips, c'est foncièrement de la publicité.
Oh oui.
Puis souvent, il y a la petite mention, vu que c'est souvent des clips de Kick, la plateforme Kick, il va avoir le logo Steak. Qui est une plateforme de paris en ligne.
Qui est liée à Kick.
Donc, c'est non seulement... Ouais, c'est ça. Donc, c'est non seulement une publicité pour Stake, mais c'est une publicité pour le streamer en tant que tel. Donc, on sait que les gens, dès qu'ils réalisent que quelque chose est une publicité, il y a comme un genre de... d'une réaction négative envers ça. Puis je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui réalisent que leur fil de vidéos courtes, ben, ce qu'ils voient, c'est des publicités, en gros.
Oui, je pense que les gens sont de plus en plus frileux face à l'inauthenticité. Et ça, c'est une autre discussion, mais je pense que ça va finir par plomber aussi un peu l'industrie de l'IA.
Mais c'est pour ça que c'est ironique, parce que l'industrie du streaming, tu parlais de Netflix tantôt, a peur d'être plombée par les gens qui enregistrent ce qui est diffusé dessus.
Ouais.
Parce que si moi, je veux enregistrer quelque chose sur Netflix, je peux pas. Ça me bloque. Alors que certains pourraient dire que si on permettait aux gens de clipper des choses, ça pourrait permettre une plus grande viralité pour ces émissions-là. C'est assez ironique. Mais juste pour boucler la boucle avec Instagram, parce qu'on est un peu parti sur une tangente sur le clipping, cette annonce-là a été perçue comme la fin du clipping. Visiblement, ça ne l'est pas. Ça s'applique déjà aux Reels. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire, cette nouvelle mesure-là? Personnellement, la manière que je le lis, c'est que sur Instagram, on voit souvent des comptes qui vont juste voler le contenu d'autres comptes et le republier. On parlait du hockey en début d'émission. Il y a plusieurs comptes qui vont juste prendre exactement les publications, par exemple, du compte du Canadien de Montréal et les remettre sur une espèce de compte de fan de l'équipe. C'est un contenu absolument inutile. Si tu suis déjà l'équipe, tu vois déjà ce contenu-là. Donc, si on peut limiter la portée de ça, déjà, ça va aider un peu à assainir l'ambiance de la plateforme.
Oui, c'est ça. Et à valoriser les contenus originaux, c'est peut-être aussi ça, aussi l'intention. Ouais. Une petite note en bas de page, je lisais là-dessus cette semaine, puis ce qu'on dénote notamment en France ces jours-ci, c'est que le clipping aussi est une formidable, entre guillemets, arme de cyberharcèlement, parce que tu peux te faire clipper par des personnes qui en ont contre toi. Là, celle qui goûte à cette médecine en ce moment, c'est la blonde de Squeezie, Chloé Gervais, qui a été clippée. Et puis là, on déforme ses propos, on décontextualise ses propos dans des lives ou des peu importe quoi. Ça pour dire que ça peut être utilisé contre toi, le clipping. Okay, okay. Et puis, autre note en bas de page, on en avait parlé au balado et à l'émission, il me semble, aussi du clipping dans la foulée de l'élection présidentielle 2024 aux États-Unis, parce qu'il y a beaucoup de clipping politique qui se fait aux États-Unis. On pense à Aaron Rupert et d'autres dont c'est le pain et le beurre, là.
Ah oui, les fameux compte Rapid Response.
Exactement.
Ouais, ouais, ouais.
Non, ASIN, genre.
Ouais.
ASIN, c'est du clipping, là.
Des gens qui passent leur journée à juste regarder toutes les vidéos de Trump qui existent. Ils regardent toutes ces conférences de presse en direct, ils regardent tous ces discours, puis là, ils vont clipper, c'est ça, là, un petit 45 c'est secondes, puis là, dire, regardez comment Trump est stupide ou sénile, ou,
etc. Exactement.
Les républicains font la même chose, là, avec... on pourrait même dire que des comptes comme Libs of TikTok, ça pourrait être un genre de proto-clipping, aussi, de juste aller voir des comptes qu'ils n'aiment pas sur TikTok, clipper quelques secondes. Puis, mais oui, c'est une façon d'inviter le harcèlement ou de prendre quelque chose de décontextualisé. Mais l'industrie du clipping, c'est ça. T'sais, c'est vraiment à des fins promotionnelles pour faire de l'argent. Puis les gens sont rémunérés pour faire ça. Donc, comme je disais tantôt, je pense que le ressac contre ça est inévitable, parce que c'est de la pub.
Ouais.
C'est fondamentalement de la pub. Tu penses que tu consommes un contenu, mais dans le fond, tu consommes une pub, puis les gens n'aiment pas ça, consommer de la pub généralement.
Exactement. Un petit mot pour dire aussi, on parlait de Clavicular. Il a été formellement... il fait face formellement à des accusations criminelles suite à un incident survenu le 26 mars dernier en Floride, impliquant potentiellement, mesdames et messieurs, la mort d'un alligator par balle dans la région des Everglades.
Ça a été clippé, oui.
Ça a été clippé. Voilà pour ça. On passe à un autre appel, n'est-ce pas? Et avant de passer au prochain sujet, moi, j'ai une autre petite plug là, qui me restait.
Mon
là.
Dieu, OK.
Non, mais parce que j'ai vu, je trouve ça intéressant, c'est d'intérêt, on pourrait en parler longuement, mais je veux juste vous dire, allez voir ça, un reportage de RAD et qui parle de ces influenceurs qui se rendent en Afghanistan, rencontrer notamment les talibans, montre une certaine image de l'Afghanistan qui... Si on veut évacuer complètement la question des femmes, la condition féminine là-bas, ça fait beaucoup jaser. En parallèle de tous ces travel vloggers aussi qui se promènent en Afghanistan et ailleurs. Bref, c'est un reportage à voir signé Lina Mansouri.
Super intéressant.
Super intéressant, vraiment. Et c'est un phénomène qu'on va regarder de près aussi au décrypteur. On passe maintenant au prochain sujet. On va parler de la vérification d'âge, n'est-ce pas? On était rendu là, Nicolas?
Absolument.
Tu me regardes avec ton petit regard.
Non, mais je me préparais.
Tu te prépares mentalement, hein, ouais. C'est ça? Gère bien ton cortisol,
exactement.
Ça sent bien. Mais, pour que tu continues à te préparer, là, juste un petit commentaire en lien avec toute cette histoire qu'on a eue suite à l'épisode de la semaine dernière. Une personne qui nous dit la vision licorne, là, c'est d'obliger les compagnies à vérifier l'âge des utilisateurs. Qui va être responsable de cette tâche, se demande cette personne. Comment s'y prendre? Comment faire pour que ce soit efficace. Si on parle de vérification d'âge, c'est parce que la semaine dernière, on parlait de Webkinu, premier ministre manitobain, qui compte imposer une limite d'âge pour ce qui est de l'accès aux réseaux sociaux. Il y a d'autres provinces qui s'y intéressent, le fédéral aussi. Et c'est une discussion qu'on alimente entre nous depuis un certain temps sur les mécanismes du contrôle ou de la vérification d'âge. Poursuivons cette discussion. Il y a d'autres éléments que vous vouliez amener cette semaine.
Oui, puis pour répondre à la question de la personne dans les commentaires, c'est assez simple à implanter dans le sens que dans les pays où est-ce qu'on a mis ça en place, il y a plusieurs solutions qui sont proposées, parfois au sein du même pays. Donc, on peut soit scanner une pièce d'identité, on peut faire un balayage facial qui va estimer l'âge de la personne avec l'IA, on peut passer par un tiers, comme en France, tu peux passer par une institution bancaire qui te donne un document qui certifie que tu es adulte et tu peux téléverser ça sur le site. Il y a plusieurs solutions qui vont être implantées, puis les plateformes décident laquelle qu'ils utilisent sur leur même plateforme. Mais okay. Là, cette semaine, on en parle parce que il y a l'organisme Internet Matters au Royaume-Uni qui a mené une étude avec des sondages et des focus groups auprès des jeunes âgés de 9 à 16 ans et de leurs parents pour comprendre c'était quoi les attitudes des enfants et de leurs parents face à la vérification d'âge. On parle de plus de 1200 personnes, 1200 enfants et leurs parents qui ont été consultés. Avant de poursuivre, j'aimerais mentionner que ce groupe-là, Internet Matters, est financé par l'industrie. Donc, Meta, Google, TikTok, Samsung financent ce groupe-là. Okay. Et ce qu'on apprend dans cette étude-là, c'est que 46 % des enfants croient que les vérifications d'âge sont faciles à contourner et que 32 % disent l'avoir fait. Donc, en disant ça dans l'étude, on n'est pas en train de dire « Ah, finalement, c'est pas une bonne solution, il faudrait penser à autre chose. » Oui, on dit qu'il faudrait avoir plus de sécurité dans le design même de ces applications-là, donc peut-être combattre les algorithmes, le défilement infini, des choses comme ça. Mais ce qu'on dit surtout, c'est qu'il faut qu'on ait des systèmes plus robustes de vérification d'âge. C'est ça un peu la conclusion à laquelle vient le rapport. Gardons les billets de l'organisme en tête, là. Mais il y a quelques données peut-être un peu cocasses qui sortent de ça. Notamment, on dit qu'il y a des enfants qui rapportent avoir réussi à contourner la vérification d'âge en se dessinant des moustaches.
Des moustaches, pour vrai?
C'est ça que ça dit dans le document. Il y a au moins un enfant qui a dit ça.
Avec quoi?
Un
crayon feutre, là?
Il y a un parent qui dit qu'il
a... Comment tu te dessines? Ouais, non.
Il y a une mère qui disait avoir vu son enfant se dessiner une moustache avec un crayon à sourcils pour contourner la vérification.
Ça a fonctionné.
Elle a ouvert la porte, puis son enfant était là.
C'est littéralement...
Littéralement, là.
Fait que wow.
J'aimerais savoir ça.
Ça, c'est une des conclusions. Un autre élément, puis c'est là, je pense, ça devient plus troublant, là, c'est qu'on dit que pour contourner ces mesures-là, seulement 7 % de ceux qui l'ont fait ont utilisé un VPN. Donc, c'est une mesure assez peu utilisée par ces jeunes-là, mais le rapport a quand même une grande section spécifiquement là-dessus, où est-ce qu'on dit, ben, il y a des gens qui disent qu'on devrait peut-être les bannir, mais tu sais, il y a beaucoup de points négatifs à bannir ça quand même. On dit que ça peut, il y a beaucoup d'usages.
Je dis rien. Genre, c'est un peu ça le message industriel.
Je veux juste quand même dire que cet organisme-là appelle à beaucoup de mesures de sécurité pour ces réseaux sociaux-là. Donc, c'est pas un porte-parole de l'industrie, mais reçoit du financement. C'est juste qu'il faut garder en tête ce biais-là, tu sais. Donc, on dit, dans cette section-là, il y a des gens qui ont appelé au bannissement, mais il y a plusieurs utilisations légitimes des VPN. Ça peut servir notamment à contourner des géoblocages, des choses comme ça. Mais dans ce débat-là sur la vérification d'âge, ce qui revient souvent, c'est cette idée qu'éventuellement, peut-être, les VPN pourront être attaqués également. Mm-hmm. Puis on voit dans l'État de l'Utah,
ça se fait, là,
qui a passé une loi tout récemment, est en vigueur depuis hier, qui dit que les sites web responsables... C'est les sites web qui sont responsables de déterminer l'emplacement des gens et que si les gens utilisent un VPN pour contourner ça, c'est de la faute du site web, finalement, s'ils le font. Fait que ça a fait en sorte que des organismes comme le Electronic Frontier Foundation s'inquiètent de ce que ça veut dire. Est-ce que ça veut dire que ces sites-là vont juste bloquer tous les utilisateurs qui utilisent un VPN à cause de ça, parce qu'il va falloir garantir l'emplacement de la personne? Il y a quand même des inquiétudes par rapport à la vie privée en ligne avec ça, là.
J'en ai d'ailleurs parlé avec Samantha Cole de 404 Media dans notre spécial sur les États-Unis. Qui suit beaucoup là, tout le débat entourant la vérification d'âge, surtout en ce qui a trait à la pornographie aux États-Unis. Mm-hmm. Puis elle me disait que c'est un canari dans la mine. C'est extrêmement dangereux parce que là, ils utilisent quelque chose que tout le monde est pas mal d'accord. Tout le monde veut protéger les enfants. Personne veut que les jeunes enfants regardent la pornographie pornographique. Tout le monde est d'accord là-dessus. Il y a à peu près personne qui serait pour. Puis on utilise ça, qui est quelque chose qui est zéro clivant, pour mettre en place des mesures qui pourraient permettre, par exemple, ah, ben, si tu es dans tel état, puis tu demandes d'avoir de l'information à propos de l'avortement, ben, faudrait bloquer le VPN parce que ce site-là est bloqué en Géorgie ou au Texas, par exemple. Donc, elle s'inquiétait là, de voir ces mesures-là qui sont au premier lieu là, utilisées pour bloquer la pornographie, puis que ça s'étende
à
d'autres causes
plus conservatrices.
Plus conservatrices, mais aussi dangereuses pour la santé, pour la santé des gens et des jeunes.
J'aimerais mentionner une autre statistique là-dedans qui est intéressante, c'est que 81% des enfants ont dit que c'était une bonne ou une très bonne chose de vérifier leur âge. Donc, quand même, ceux qui subissent ça semblent aussi le voir d'un œil positif à très forte majorité.
Ça, je pense qu'il ne faut pas le sous-estimer. Ils ont ce niveau de conscience-là, des dangers, des écueils possibles, et puis donc ouverts à ce qu'on on vérifie leur âge. Jeff, tu mentionnais Sam Cole. Mentionnons aussi Ryan Broderick, que tu as interviewé de Garbage Day, l'infolettre qu'on évoque souvent à nos micros. C'est important que tu le rappelles. Donc, cette émission spéciale d'une heure, elle est disponible sur YouTube et sur tout.tv. On se consacre à la désinformation et autres thèmes connexes à l'ère Trump. Alors, c'est à voir et à revoir. Voilà pour cette deuxième plug de notre émission spéciale. Un petit mot.
Un autre plug.
Oui, une autre plug. mais d'un article d'une collègue et voisine de bureau, Fanny Bussière-McNicol, qui, on le sait, a travaillé de concert avec nous pour sonder les élèves du cégep et des universités sur l'utilisation de l'IA. Là, elle essaie un article sur les élèves du primaire.
Mais c'est ça. Elle suit depuis longtemps.
Et du secondaire.
Elle suit depuis longtemps ce qui se passe dans les universités puis dans les cégeps, à savoir que les professeurs voient l'IA arriver, puis que les consignes sont pas claires, les balises sont pas claires, on les a un peu laissés pour compte. Et s'est intéressé à ce qui se passe dans les primaires et les secondaires, puis là, ce qu'on se rend compte, c'est que c'est encore pire, parce qu'il y a quasiment pas de discussion autour de ces enjeux-là. Les profs le savent très bien. Ils parlent qu'ils ont des élèves là, de primaire qui donnent des travaux, qui ont un vocabulaire qui n'a absolument aucun sens, étant donné leur niveau d'éducation. Puis les profs se sentent absolument abandonnés. Il y a pas de consignes, même pas de réflexion par rapport à ça. Puis il y a une citation d'un prof que je trouve vraiment dystopique. Là. Fanny parle du fait que, il y a beaucoup de problèmes dans le réseau scolaire québécois, il y a des problèmes de personnel, il y a de la violence dans les écoles, les bâtiments tombent en ruine souvent. Puis il y a un professeur qui dit, on est constamment en train d'éteindre les feux dans les écoles et le feu de l'IA ne semble pas prioritaire pour l'instant, étant donné les autres problèmes qui ont lieu dans les établissements. Donc, c'est vraiment désolant parce que ça va affecter l'éducation des jeunes, c'est absolument certain. Si ça se passe à l'université puis au cégep, au secondaire puis au primaire, c'est à peu près certain là, que ça va s'étendre là-bas.
Ouais, puis il y a un sondage des profs qui est rapporté dans l'article. On parle de 46% d'entre eux qui disent n'avoir reçu aucune information de leur direction ou de leur centre de service scolaire au sujet de l'IA. Donc, c'est quand
information
même...
Information ou formation?
Information.
Information, OK.
Ouais, ChatGPT va avoir 4 ans, là. À l'automne.
Bonne nouvelle, Sonia Lebel, la ministre, dit que l'Institut national d'excellence en éducation va se pencher sur l'usage pédagogique de l'IA pour identifier des situations où l'usage a une valeur pédagogique ajoutée et celles où ça pourrait être nocif.
Il faut faire ça vite, là. C'est une industrie qui se développe vite, qui n'a pas beaucoup de balises et qui s'incruste. Alors, en espérant qu'ils mettront... qui mettront leurs piles. Ça, c'est une expression en espagnol. Ponerse las pilas.
Il se penche là-dessus.
Ouais, c'est ça. Avec célérité, souhaitons-le. Un petit mot sur la revue Nature qui a procédé une rétractation en ce qui a trait justement à ChatGPT et à ses bénéfices en éducation.
Oui, c'est 404 Media qui rapporte que Nature a rétracté cette étude-là qui a beaucoup circulé après qu'elle avait été publiée en mai l'an dernier par des chercheurs chinois. C'était une méta-analyse de 51 une étude qui concluait que l'IA avait un impact positif sur la performance des étudiants, sur leur apprentissage et sur leur manière de penser finalement à l'école. Mais la note de Nature dit que ça a été retiré en raison d'incohérences dans la méta-analyse. Il y a 404 qui a interviewé Ika Tuomi, qui est un chercheur finlandais, qui lui expliquait que cette méta-analyse-là se basait sur des études quantitatives très hétérogènes et que les conclusions n'étaient pas représentatives du contenu qu'ils analysaient. Parce que ce qu'il disait ce chercheur-là, c'est que l'étude est sortie après que ChatGPT était sorti pendant 2 ans et qu'à ce moment-là, il y avait très peu de données de qualité là-dessus. Donc, la plupart des soi-disant études que ça citait, c'était des recherches de très faible qualité publiées, et je cite, là, dans des revues peu recommandables. Donc, finalement... ça tenait sur pas grand-chose et ça a beaucoup circulé sur LinkedIn, sur Twitter.
Sur LinkedIn?
Sur LinkedIn. Salutations à Fanny, si elle nous écoute, Fanny
Salut
Tan.
Salut, Fanny.
Donc, on parle... quand même. Elle a eu 400 000 vues en un mois, cette étude-là, après qu'elle avait été mise en ligne sur Nature. Donc, elle a été très vue, potentiellement très influente,
très
mais
citée.
Se basait finalement sur pas grand-chose.
Mais si, méfiez-vous, si vous avez débattu avec quelqu'un puis on cite donc cette étude-là, vous saurez quoi dire grâce à Nicolas et cette précision.
Grâce à 404 Media.
Encore une fois.
Salutations.
Salutations à Sam et tous ses amis de 404. Avant qu'on enregistre Balado, en fait, hier, le jour qui précède, on a eu un débat qui a commencé. Il a fallu que Louis-Charles, qui est ici, notre caporal, nous calme là, en disant hey, « calmez-vous, là ». Mais non. Il n'y avait pas de violence, mais quand même.
Je suis sûr que ça va créer un débat dans les commentaires sur YouTube.
C'est le pari de Jeff. Il est question de traduction d'un terme qu'on emploie souvent à notre époque, le terme « prompt ».
Oui, c'est en lisant le rapport justement du commissaire de la vie privée, la traduction de « prompt » en français, c'est « une invite ». Un terme que je n'avais jamais entendu avant d'avoir lu le rapport. Ben, pas... très, très, très franchement.
C'est normal, tu ne l'as pas entendu, ça n'a aucune allure.
Moi, je l'aime. Moi, je l'aime, ce terme-là. Donc, on est allé voir. L'OQLF recommande requête, mais reconnaît qu'une invite, c'est aussi un terme.
C'est féminin.
Une invite.
Une invite.
Reconnaît que le terme est aussi approprié pour ça. Puis, ben, invite, quand on regarde dans le dictionnaire, là, une invite.
Une invite.
Non, mais c'est un terme informatique. C'est quand le système informatique est prêt pour recevoir une requête ou une commande de l'utilisateur, c'est une invite.
Une requête.
Une commande.
C'est ça l'affaire. C'est
commande
ce que j'aime avec invite. Ce que j'aime avec invite, c'est plus.
On va le laisser te défendre, vendre sa salade, Nicolas. T'inquiète, on arrive ensuite.
Laisse-moi parler. Tu pourras répondre à mes arguments plutôt qu'émotionnellement, Nicolas.
OK. Non. Est-ce que ton niveau de cortisol a monté un peu?
Reste au calme.
Non, mais ce que j'aime, sans blague, ce que j'aime, c'est que, tu sais, requête, ça envoie justement à une requête. Puis c'est pas vrai qu'on utilise les robots conversationnels seulement pour des requêtes. T'sais, c'est pas à chaque fois qu'on utilise ChatGPT qu'on dit fais-moi ceci, cherche-moi ceci. Des fois, les gens utilisent ChatGPT sans avoir de requête claire. T'sais, quelqu'un peut dire hey, j'ai faim ou je me sens pas bien aujourd'hui. C'est pas vraiment
déprimé,
une requête, ouais. C'est une invitation à ce que le robot produise du contenu
une
suite. Puis je trouve que c'est plus fidèle à l'esprit du mot prompt, parce qu'un prompt, c'est pas nécessairement une requête, c'est une invitation à compléter quelque chose. Donc, j'aime bien le mot invite et je vais continuer à l'utiliser.
Ah,
donc,
tu persistes tes signes.
Moi, j'aime, plus j'y pense, plus j'aime le terme invite. Donc,
à ce micro-là, tu vas dire une invite dans les prochains épisodes?
Peut-être, je vais probablement prompt.
On va promettre un petit beep à chaque fois qu'il dit.
Mais écoutez, on aimerait ça savoir ce que vous en pensez. Ouais. Moi, j'aime bien le terme. Comme, la première fois que je l'ai vu, honnêtement, j'ai eu la même réaction que vous. J'ai eu une réaction épidermique de c'est quoi ce mot-là? On dirait un mot extraterrestre. Mais plus j'y pense, plus c'est fidèle à l'esprit du mot prompt en anglais.
Mais est-ce que c'est fidèle à la notion de familiarité? T'sais, pour qu'un mot ait un sens dans une collectivité.
Est-ce que courriel, c'est familier le jour où ça a été inventé?
OK, moi j'ai un contre-argument scientifique béton à ça. Ça sonne mal.
Ben, écoute, j'ai demandé à Claude, qui est le robot conversationnel le plus intelligent, puis il m'a dit que invite était beaucoup mieux que requête parce que sémantiquement.
Qu'est-ce qu'il sait, lui?
C'est un robot conversationnel.
OK. Fait que là, petit Claude t'a dit ça, puis that's it.
Non, mais je trouvais ça drôle parce que, bon, Claude disait que selon la sémantique informatique, ça représentait plus fidèlement le mot prompt. Je précise que j'avais cette opinion-là avant de le demander à Claude. Et oui, Claude a confirmé. Mais a confirmé mon biais idéologique. Donc, je dis que Claude, c'est le meilleur.
Gênant.
En tout cas,
gênant. Mais Jeff Yates, 7 mai 2026.
Suite à mon invite, il a répondu et il a confirmé mes opinions.
Invite. Vous nous direz ce que vous en pensez. Le débat est ouvert.
Je pense qu'on va même faire un sondage dans les commentaires.
On peut faire un sondage. On peut le faire sur la plateforme YouTube où est mis en ligne notre épisode de tous les samedis, 10h du matin, heure de l'Est. Mais Jeff Yates, vous savez, il n'est pas imperméable au changement d'opinion, hein? Avec les, avec les friteuses à air, il a changé d'opinion.
En tout cas, on dit pas dans quel sens.
Je dis pas dans quel sens.
Vague post.
Aïe, aïe, aïe. Nicolas, est-ce que tu juges que c'est assez pour cette semaine?
Je suis qui, moi, pour savoir ça?
Bon, ça y est.
T'en penses quoi, toi?
Typique, Nicolas. Je suis qui, moi?
C'est toi le boss. Non, non. Ça, c'est aussi une... Qu'est-ce que je dis souvent? C'est toi le boss. C'est toi qui décides.
Ce à quoi je réponds,
Tu sais, Nicolas, je suis contre les hiérarchies. Ici, on est tous pareils.
Ouais, le gars derrière la caméra, c'est lui qui le bosse, puis il a l'air pas super patient en ce moment.
Cortisol très élevé live. Là.
OK, cortisol très élevé. Non, lui, il est tellement zen qu'après la première défaite du Canadien, il dit « Calmez-vous, c'est correct. » Louis-Charles à l'antichambre, ça, je le réclame. Bon, c'est bon. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres cette semaine. Jeff et Nicolas, c'est toujours un plaisir de jaser avec vous, que ce soit autour de cette table ou ailleurs, dans des contextes moins formels. Très content de te revoir parmi nous, cher Jeff. Jérémy aussi, qui était de retour parmi nous en régie et qui m'a soufflé à l'oreille le résultat de Gemini et sa prédiction pour le Canadien de Montréal en 7 contre les Sabres, dit-il. On verra bien. La table est mise pour cette série fort coriace avec des gars costauds comme ceux des Sabres. N'est-ce pas, Martine Roy, qui est derrière avec nous? Salut, Martine! On salue tout le monde qui nous écoute si fidèlement. Et sachez qu'on a hâte de vous lire, comme à chaque semaine. N'hésitez pas à commenter ce qu'on dit pas, comment on le dit, comment on ne dit pas les choses. On est toujours à la recherche de commentaires constructifs pour enrichir notre réflexion. C'est ça ce qui compte, entre autres, pour nous. On se voit la semaine prochaine. Comme toujours, je vous dis, prenez soin de vous. Et comme toujours, je vous dis, je vous aime. Allez, salut!